Ce soir, je voudrais partager avec vous un message sur un thème qui est le thème de la réhabilitation. La réhabilitation, c'est un mot un peu compliqué, mais dans lequel on va retrouver des concepts ou des pensées qui sont très intéressantes spirituellement. Et on va illustrer cette pensée de réhabilitation au travers de l'histoire de David. Alors dans la réhabilitation, je disais, il y a plusieurs dimensions, j'en ai noté trois. Il y a une première dimension qui est une dimension de pardon, de rachat. Jésus est mort à la croix pour nous. Et quand on dit qu'il veut nous réhabiliter, c'est que dans l'œuvre de Jésus à la croix, il y a cette notion de pardon. Il veut nous racheter de nos péchés, il veut nous racheter de nos fautes. Et ça fait partie de la réhabilitation. Dans la réhabilitation, il y a aussi la volonté de Dieu, à un moment donné, quand nous avons traversé des périodes difficiles ou quand nous avons connu des épreuves, que nous avons pu peut-être nous enfermer dans le péché, il y a la volonté de Dieu de nous relever, de nous rétablir, parce que nous, parfois nous tombons bas par notre faute, par nos erreurs, mais Dieu veut nous relever. Et la dernière dimension, c'est une dimension de réparation. Dieu veut nous réparer. Jésus veut nous réparer. Quand Jésus nous tend la main, c'est pas seulement pour nous sauver, c'est aussi pour que par la suite, nous puissions bénir autour de nous, que nous portions du fruit. Et pour cela, il faut que nous soyons réparés. Comme une maison qui est détruite, quand on veut la reconstruire, on commence par les fondations et ensuite on construit. Et parfois, dans le bâtiment, on utilise ce mot de réhabilitation. Quand on rénove un bâtiment ou un immeuble, on emploie parfois le mot de réhabilitation parce qu'il y a une connotation de construction. Voilà, et donc je disais que j'allais illustrer cette notion de réhabilitation au travers de l'histoire de David. On peut commencer par rappeler, même si David est connu, mais rappeler que le roi Saül avait été choisi comme le premier roi d'Israël et il avait été oint par le prophète Samuel. Mais il s'est avéré que le roi Saül, par la suite, démontrera qu'il est un désobéissant envers Dieu, qu'il a un comportement insensé, un comportement de roi qui n'est pas digne de la pensée de Dieu, de la vision de Dieu pour le rôle que devait jouer le roi auprès du peuple. Et la parole dit que Dieu va retirer son esprit de Saül. Et Dieu va diriger le prophète Samuel vers un jeune berger dans la région de Bethléem, qui est le jeune David. Et David sera oint par Samuel. Et par la suite, David va réaliser beaucoup d'exploits. Notamment, on connaît tous la célèbre victoire de David contre Goliath. Et David va jouir d'une tellement grande réputation par ce qu'il va réaliser grâce à la présence de Dieu à ses côtés que le roi Saül va le faire venir à sa cour pour ses talents de musicien, mais pas que, puisque David va être aussi chef de l'armée de Saül. David va se lier d'une grande amitié avec Jonathan, le fils de Saül. Il va même épouser sa fille Michal. Donc David va vraiment faire partie de la cour. Il va être très proche du roi. Mais le roi va devenir très jaloux de David au point qu'il souhaitera sa mort, au point qu'il va chercher à le faire mourir. Et cette haine de Saül vis-à-vis de David va jouer un rôle déterminant dans la tournure que va prendre la vie de David. Puisque pour la première fois dans sa vie, David va avoir peur. Et on va voir combien la peur peut jouer des tours, combien la peur est un sentiment néfaste dans la vie de tout un chacun, mais à plus forte raison de nous qui sommes chrétiens, qui croyons en Jésus. Lorsque nous laissons la peur prendre la première place dans notre vie, il s'ensuit de conséquences qui peuvent être très graves. Et c'est ce qui va arriver à David. Il va laisser la peur le submerger. Et on va voir que petit à petit, sa vie va prendre une tournure qui n'était pas la tournure prévue. Donc on va illustrer ce parcours de David en trois étapes, trois stades qui vont s'amplifier. Le premier stade, donc je le disais, c'est la peur. C'est la peur de Saül qui va l'amener à fuir. Le deuxième stade dans son cheminement, je l'ai appelé un enroulement sinueux, je vous expliquerai pourquoi. Et puis la troisième étape, c'est la mort. Et David va se retrouver très près de la mort. Donc pour revenir à la peur, David va se laisser dominer par la peur. Saül veut le tuer, Saül en veut à sa vie, Saül est jaloux, et David ne va pas supporter la crainte de perdre sa vie. Pourtant, David est croyant, David connaît Dieu et David a expérimenté ce que la présence de Dieu à ses côtés pouvait porter comme fruit dans ses activités, dans ses actions. Ne serait-ce déjà que par le fait que le prophète Samuel ait été dirigé jusqu'à lui, qui était simple berger dans la région de Bethléem, qui était inconnu. Déjà, ce fait-là prouve à quel point Dieu cherchait David. Et il est dit que lorsque David a été oint, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Et qu'à partir de ce jour et dans la suite, donc l'Éternel serait à ses côtés. Donc déjà, là, il y a un fait marquant dès le début de la vie de David, dans sa jeunesse. Et c'est une expérience forte, c'est une expérience marquante, très certainement. Quand Samuel est arrivé et a oint David, j'imagine que saisi par l'Esprit de l'Éternel, David a dû vivre quelque chose de très fort, très puissant avec Dieu. Et par la suite, il va réaliser, je le disais tout à l'heure, des exploits, des prouesses. Par exemple, quand il était simple berger, il a combattu à main nue des lions et des ours, il les a tués, donc il était rempli de la puissance de Dieu et il n'avait pas peur. Il va combattre, on l'a dit, le géant Goliath. C'est un géant philistin qui avait déclaré « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées ». Et il lui dit « Tu as insulté le Dieu de l'armée d'Israël, donc je vais te combattre ». Il y avait peu de volontaires, il n'y en avait pas du tout d'ailleurs, de volontaires pour combattre Goliath. Mais David s'était levé parce qu'il n'avait pas peur, parce que Dieu était à ses côtés. Et puis par la suite, lorsqu'il va intégrer la cour du roi, Saül, il sera placé en tête des troupes militaires et il va mener des combats, il va diriger l'armée du roi pour aller affronter des ennemis et il va remporter beaucoup de nombreuses et de grandes victoires. Et il sera un leader par rapport à cette armée du roi, ce qui prouve encore que David n'avait pas peur. Il n'était pas habité par la peur. La peur ne faisait pas partie de sa vie. Et d'ailleurs, David, qui est connu pour avoir écrit beaucoup de psaumes, nous dit dans le psaume 23, que tout le monde connaît, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il n'avait pas peur, il ne craignait aucun mal. Pourquoi ? Parce que Dieu était à ses côtés. Et là, subitement, parce qu'il est sous la menace de la méchanceté de Saül, tout à coup, David va prendre peur. Et il va laisser la peur le gouverner quelque part. Un peu comme Élie face à Jézabel. Vous connaissez l'histoire d'Élie, hein, qui avait vaincu les prophètes de Baal, qui avait tué les prophètes de Baal. Et après cette grande démonstration, quand le feu est venu, et après cette grande démonstration de puissance, il a pris subitement peur face à la reine Jézabel et il a fui. C'est un petit peu pareil pour David. Il était plein de réussite grâce à la puissance de l'Éternel à ses côtés. Il avait démontré qu'il pouvait faire de grandes choses avec l'Éternel. Et subitement, il va prendre peur face à un homme. Dans 1 Samuel chapitre 20, David va déclarer « Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort ». Et il fait référence à la crainte qui est la sienne de Saül. Donc il semble en fait que David a perdu sa confiance en Dieu. Et il a perdu pourquoi ? Parce qu'il a laissé la peur, qui est un sentiment très humain, la peur. C'est presque naturel d'avoir peur quand on est face à un danger imminent, quand on est face à, je sais pas, un lion, un ours comme David l'a été, quand on est sur un champ de guerre, c'est normal d'avoir peur. C'est humain, c'est un sentiment humain. Mais quand ce sentiment, au-delà de l'urgence, dans la vie de tous les jours, prend une place très importante, cela nuit à notre relation avec Dieu et nous amène à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Et ici, on va voir que David va prendre une décision qui s'avérera mauvaise, c'est-à-dire qu'il va fuir. Selon la parole de Dieu, il y a deux sortes de craintes. La première crainte, elle est positive, elle est bonne, c'est la crainte de l'Éternel. C'est un mot qui est la crainte de l'Éternel, c'est une expression qui revient souvent dans la Bible, et c'est une crainte qui est bénéfique pour nos âmes. C'est normal et c'est bon de ressentir une crainte pour l'Éternel. Ce n'est pas une peur, il ne faut pas assimiler cette crainte à une peur, c'est plutôt un profond respect pour Dieu, pour son œuvre, c'est un profond respect pour l'œuvre de Jésus à la croix, et c'est aussi une disposition de cœur. C'est-à-dire une sincérité totale de notre part quand nous nous adressons à Dieu, quand nous nous approchons de la présence de Dieu, quand nous venons vers Dieu avec des prières, des demandes, comme nous allons le faire ce soir. La notion de sincérité est importante et elle fait partie de cette crainte, de ce profond respect que nous devons avoir pour Dieu. Et puis il y a une seconde sorte de crainte qui, elle, est donc humaine et charnelle. c'est la crainte de l'ennemi, la crainte de l'épreuve, la crainte de la maladie, la peur, finalement, ce qu'on appelle la peur, qui est une notion donc humaine et pour le coup destructrice, dévastatrice pour nos âmes. Donc ici, David, il est pris par la deuxième peur, qui le paralyse complètement, et donc il va fuir. Il y a un verset dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, qui nous parle de cette crainte humaine et qui nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors cet esprit de timidité, timidité, c'est pas tout à fait la crainte ou la peur, mais ici le mot grec utilisé dans la version originale, c'est le mot delia, D-E-I-L-I-A, qui signifie donc timidité, mais aussi crainte, frayeur ou lâcheté. Donc on pourrait dire ce n'est pas un esprit de crainte ou de lâcheté ou de frayeur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et donc l'esprit qui accompagnait David dans sa jeunesse était un esprit de force qui venait de Dieu. Dieu était à ses côtés. Et l'esprit qui l'accompagnait à présent était un esprit de crainte et de timidité. Et on sait donc que cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Donc, il y a des enseignements à tirer de cette peur qu'a ressenti David pour nous, les conséquences que ça a eues. Déjà, le fait que David, qui était un croyant, qui avait expérimenté, qui avait réalisé de grandes choses avec Dieu, puisse par la suite laisser la peur gouverner sa vie, ça veut dire que nous aussi, nous sommes potentiellement concernés par cela. Oui, nous avons connu Dieu. Oui, peut-être Dieu a fait de grandes choses dans notre vie. Mais nous ne sommes pas à l'abri, parce que nous sommes humains. Si un jour nous laissons la peur nous gouverner et prendre la place dans notre vie qui est la place qu'occupe le Seigneur, nous ne sommes pas à l'abri, comme David, de devoir par la suite fuir parce que nous ferons de mauvais choix, parce que nous prendrons de mauvaises décisions. Un peu comme Pierre, lorsqu'il a quitté la barque pour rejoindre Jésus, qui marchait sur l'eau, qui était là dans le lac, qui marchait sur l'eau. Pierre est sorti de la barque pour rejoindre Jésus, et à un moment donné, il va quitter Jésus du regard, il va avoir peur, il va paniquer, et à ce moment-là, il va commencer à s'enfoncer. Mais un petit peu comme Pierre, nous devons prendre garde à ne pas laisser la peur nous envahir, à ne pas laisser la peur nous gouverner, et comme le précise cet épisode de Pierre qui marchait sur l'eau, c'est vraiment de garder nos regards fixés sur Jésus qui nous permet de garder la confiance, parce que cette confiance qui nous permet de combattre les épreuves les plus dures, les épreuves les plus difficiles, elle vient de Dieu. Dans Ésaïe 41:10, Dieu nous donne une promesse dont nous devons nous souvenir. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est clair, ne crains rien. Ne crains pas cette maladie, ne crains pas cette épreuve, ne crains pas ce licenciement, ne crains pas cette séparation. Ne la crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Jésus est avec nous. Il l'a promis, il l'a dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, c'est une promesse que nous devons avoir quotidiennement à l'esprit pour justement ne pas laisser la peur prendre le pas, mais vraiment placer notre confiance en Jésus seul. Donc premier stade, je disais tout à l'heure, la peur. Deuxième stade dans la situation de David qui va empirer, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'enroulement sinueux. Alors pourquoi j'ai appelé ça l'enroulement sinueux? C'est curieux comme expression. Donc c'est très simple, on va voir que David... L'histoire qui nous intéresse va se dérouler principalement dans une ville qui s'appelle Tziklag, qui est une ville des Philistins. Et Tziklag, en hébreu, signifie enroulement sinueux. Donc David avait fui et il avait choisi, puisque c'est un choix, de fuir dans le pays des Philistins. Et les Philistins, nous le savons, c'est un peuple ennemi de Dieu. Et dans son périple dans le pays des Philistins, il va constituer une armée de 600 hommes. Ce sont des hommes qu'il va rencontrer sur le terrain, d'anciens soldats, des mercenaires quelque part, et ils vont former comme une armée, une troupe d'hommes qui mènent des combats dans la région. On peut se demander comment David, qui est appelé, dans la parole de Dieu, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, comment cet homme selon le cœur de Dieu, à un moment donné, peut se retrouver chez les Philistins, chez les ennemis. On lit dans 1 Samuel, chapitre 27, verset 1, une déclaration surprenante de David qui dit « Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher. » Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier chez les Philistins. On pourrait dire « Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier chez les ennemis de Dieu. » Et là, c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête de David. C'est difficile de mesurer à quel point la peur l'a vraiment saisi, la peur le domine, pour le pousser à faire le choix d'aller vers les ennemis de Dieu. Pourtant, c'est bien ce qu'il fait. Il va faire bien plus que ça. Il va aller jusqu'à leur demander une ville, et donc la ville de Tsiklag. David va aller à la rencontre d'Akish. Akish, c'est le fils du roi de Gath. Alors, pour c'est un peu ironique, mais Gath, c'est la ville de laquelle venait le géant Goliath. Et à présent, David en est même allé rencontrer le fils du roi de cette ville pour lui demander une faveur particulière. Cette faveur particulière, c'est de lui octroyer une ville, de lui donner une ville dans laquelle il pourra résider avec ses 600 hommes. Donc il finit par obtenir cette ville, qui signifie donc « enroulement sinueux ». Alors, « enroulement sinueux », je trouve que c'est très parlant par rapport à la situation de David. Quand j'ai vu cette traduction en roulement sinueux, tout de suite j'ai eu l'image du serpent. Vous savez, le serpent, on le voit parfois dans des films, des dessins animés, le serpent qui s'enroule autour de sa proie, silencieusement, il fait pas de bruit. Il fait ça de façon très sournoise. Il va venir entourer tout doucement sa proie, mais petit à petit, il va serrer l'étreinte autour de sa proie, jusqu'à ce que cette proie finalement s'évanouisse, jusqu'à ce qu'elle perde conscience. Et je trouve que ça image bien en fait ce qui est en train de se passer pour David. Petit à petit, alors que la peur a pris le contrôle de sa vie, petit à petit il est en train de chuter. C'est pas une chute brutale, c'est pas une chute soudaine, mais petit à petit il est en train de décliner. Il commence par fuir chez les Philistins. Il aurait pu rester caché dans le pays d'Israël. Il aurait pu rester caché dans la région de Bethléem, par exemple. Il était originaire de Bethléem, il connaissait bien les montagnes, il aurait pu rester caché à l'abri dans ce pays. Il va même envoyer ses parents dans le pays de Moab. C'est un autre pays ennemi de Dieu, c'est un autre peuple ennemi de Dieu. Il va réfugier ses parents dans le pays de Moab, là aussi, pour les mettre en sécurité. Et lui va fuir chez les Philistins. Et puis, il va essayer de plaire aux Philistins. Et puis, il va leur demander une ville. Quelque part, il essaie de devenir comme eux. Et puis, il n'a plus de relation avec Dieu. Et petit à petit, comme ça, David est en train de décliner dans cet enroulement sinueux, comme un tourbillon, vous voyez, quelque chose qui tourne comme ça, comment on appelle ça, une spirale. Vous voyez, cette image de la tempête comme ça qui tourne et puis qui vous emporte. Il ne maîtrise plus rien, on a l'impression qu'il est en train de partir. Et même avant cela, on va lire dans 1 Samuel chapitre 21 verset 13, il va chercher à tromper les Philistins. Il est dit donc dans 1 Samuel 21, verset 13, il se montra comme fou à leurs yeux, il fit devant eux des extravagances, il faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Il faisait des extravagances, il laissait couler sa salive. Il déraisonnait, finalement, il était devenu très différent, à des années-lumière du jeune homme qu'il était, qui ne craignait rien, qui avait Dieu à ses côtés, qui ne craignait aucun défi. Et tout ça, quelque part, s'était envolé. Et David était vraiment en train de s'enfoncer dans cet enroulement sinueux. Sinueux, c'est ça va de travers, c'est pas droit, c'est pas direct. Hein, c'est donc il y a bien cette notion de quelque chose de trouble. Alors, on peut illustrer de quoi est faite la nouvelle vie de David au pays des Philistins. Dans 1 Samuel chapitre 27 versets 8 et 9, on va d'abord voir que la nouvelle vie de David chez les Philistins, elle est faite d'horreur et de terreur. Donc on lit. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guéchuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté de Chour et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish, donc le fils du roi de Gath. Donc sa vie était faite d'horreur et de terreur. Il ravageait la contrée. On n'est plus face à un serviteur de Dieu. On n'est plus face à quelqu'un dont la bonté de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste dans la vie. Non, c'est plus cet homme-là du tout. Sa vie est également faite de mensonges et de tromperies. On lit un peu plus loin, donc, dans 1 Samuel 27, versets 10 et 11. Achish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Et David répondait, vers le midi de Juda, vers le midi des Jérachméélites et vers le midi des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David. Donc, quand il avait massacré des villes ou des villages qui les avaient pillés de leurs biens, il allait chez le roi, chez le fils du roi, chez Achish, j'imagine, pour lui donner une partie du butin. Et donc, Achish, lui, pensait que David faisait du commerce, qu'il faisait des affaires. Il lui dit, mais où avez-vous fait vos courses aujourd'hui? Et David entretenait cela. Il le laissait croire cela. Les Philistins, je pense que eux, ils assumaient haut et fort qui ils étaient, ce qu'ils faisaient. Ils étaient mauvais, ils étaient méchants, ils l'assumaient. David, lui, n'assume même plus cela. Donc, il ment et il trompe même jusqu'à le faire avec les Philistins. Donc, il a vraiment, il est vraiment passé dans une dimension qui est mauvaise et on voit que cet enroulement sinueux, il avance toujours un peu plus. Dans 1 Samuel, au chapitre 30, versets 1 à 4, on va voir que les événements vont prendre une tournure dramatique. À un moment donné, le peuple des Philistins va vouloir mener une guerre contre Israël et David va aller jusqu'à proposer ses services pour accompagner les Philistins combattre Israël. Les princes des Philistins vont voir dans cette démarche de David peut-être un subterfuge, quelque chose qui visait à les tromper. Ils avaient peur que pendant le combat, ben, David se retourne contre eux. Donc en fait, ils vont le renvoyer. Ils vont dire à David, non, tu ne viendras pas avec nous. Tu retournes à Tsiklag avec tes hommes. Donc on en est là. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites faisaient partie des peuples que David massacrait. On l'a dit tout à l'heure. Donc, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les femmes et les enfants ont été enlevés, la ville est en feu, donc David est dans l'angoisse. On l'a dit, il est un homme seul, il est loin de Dieu, mais à présent, il a tout perdu. Il a tout perdu, et alors même qu'il était sur le point de combattre Israël, il a même perdu la notion de, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais même de patriotisme vis-à-vis d'Israël, le pays dont il est issu. Et là, il est retourné avec ses hommes, il a tout perdu, il pleure avec ses hommes, il est vraiment au bout, je dirais, de cet enroulement sinueux. On voit que tous les événements se sont enchaînés et ça a toujours été de pire en pire. Donc cette saison de la vie de David nous enseigne et nous donne deux avertissements. On l'a dit tout à l'heure, le premier, c'est attention au sentiment de peur, qui est un sentiment qui va, lorsqu'il domine sur nous, produire de mauvais effets, nous amener à faire de mauvais choix. Et après cette peur, nous devons être vigilants, ne pas fuir loin de Dieu. Nous ne devons pas nous enfuir loin de Dieu, nous ne devons pas tourner le dos à Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons rencontré une épreuve et que cette épreuve est dure qu'à un moment donné nous l'avons craint. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné nous avons eu peur que Dieu n'est plus là ou que Dieu ne nous tend plus la main. Bien au contraire. Et le fait de fuir et dans cette fuite en avant de ne plus jamais se rapprocher de Dieu et au contraire d'avancer de plus en plus dans les difficultés sans faire confiance à Dieu, c'est quelque chose qui peut nous conduire très loin, et on va voir que David va être quasiment au point où sa vie est menacée, où il va mourir. Donc c'est le troisième stade, c'est le stade de la mort. Donc David va être très près de la mort. Dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Le peuple, c'est donc les 600 hommes. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Ces hommes-là, ils ont tout perdu. Enfin, ils ont perdu leurs femmes, ils ont perdu leurs enfants, ils en veulent à David. Pourquoi? Parce que David est le chef de cette troupe de 600 hommes. C'est certainement lui qui prend les décisions. C'est certainement lui qui les avait amenés à massacrer les Amalécites. C'est certainement David qui avait dit « Allons avec les Philistins combattre Israël ». Et c'est pendant cette absence-là que les Amalécites sont venus et ont enlevé les femmes et les enfants. Donc les 600 hommes en voulaient à David au point de dire ben, « Nous voulons le lapider ». David est là, la ville est détruite. les femmes, les enfants ont été enlevés, il est seul, il n'est plus dans la présence de Dieu, les 600 hommes veulent le lapider, ils peuvent essayer de se mettre à la place de David, il est à deux doigts de la mort. Et donc, toujours dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 6, la dernière phrase de ce verset va tout changer. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et c'est ce qui va tout changer. Il reprit courage. Il n'avait plus peur. Il va reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il était au bord du précipice. Il allait mourir. L'ennemi lui avait tout pris. La peur l'avait conduit chez les Philistins. Il avait tout perdu. La seule chose qui lui restait, c'était sa vie. L'ennemi avait dirigé les 600 hommes vers David et il allait mourir. La dernière chose qui lui restait, sa vie, il était sur le point de la perdre. Lui qui était parti, qui avait fui Israël pour sauver sa vie, il se retrouvait dans une situation où il avait tout perdu et en plus, il allait perdre sa vie. Et donc, il va reprendre courage. C'est comme un réflexe de survie. Ça arrive soudainement. On voit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Certainement que les expériences passées avec Dieu, la relation qu'il avait entretenue avec Dieu, a refait surface. Ce n'est pas dit ici, mais peut-être aussi que l'Éternel l'a saisi. Il était dit que l'Esprit de l'Éternel avait saisi David. Mais David a repris courage. Tout à coup, David reprend courage. On n'a pas le temps de le lire ici, mais il y a un psaume qui est le psaume 86, et qui, je trouve, correspond très bien à cette situation dans laquelle David reprend courage. C'est un psaume qui s'appelle « Prière de David ». Et c'est un psaume dans lequel David vient vers Dieu, mais vient vers Dieu dans les pleurs, dans la repentance. C'est un psaume dans lequel il exprime toute la confiance qu'il a dans l'Éternel. C'est un psaume dans lequel David parle aussi de la crainte qu'il a vis-à-vis de l'Éternel. Il dit dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Donc on voit qu'il y a un retour vraiment à cette relation, à cette crainte qui n'est non plus la crainte des hommes ou des événements, mais la crainte de Dieu. Et c'est un psaume aussi dans lequel David promet des choses à Dieu. Un psaume dans lequel il fait des vœux. Je marcherai dans ta fidélité, je glorifierai ton nom à perpétuité. Et Dieu aime quand nous nous engageons. Et Dieu qui voit nos cœurs sait quand nous nous engageons de façon sincère. Et David dira dans le psaume 145, versets 18 et 19, vous connaissez certainement ce verset, « L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. » Nous devons craindre l'Éternel. Et nous devons apprendre à le craindre, avoir ce profond respect, cet amour sincère, nous devons vraiment l'entretenir et le cultiver. Donc David va être réhabilité. Soudain, il reprend courage et Dieu va le réhabiliter complètement de plusieurs façons, de plusieurs étapes dans la reconstruction, dans la réhabilitation. La première étape, ça va être la relation. La relation entre Dieu et David va reprendre. Elle s'était arrêtée, elle n'existait plus, elle va reprendre. On lit dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 8. Et David consulta l'Éternel, et un peu plus loin, l'Éternel lui répondit. On voit que cette connexion est rétablie. David demande, David reçoit. L'Éternel est là, il est présent. David va être réhabilité également en tant que leader. Dieu va lui redonner des capacités. Versets 9 et 10. David se mit en marche avec ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui étaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ces 600 hommes qui voulaient le lapider quelques versets avant, maintenant le suivent. Ils ont retrouvé la confiance en David. Cette confiance-là, cette capacité à mobiliser les troupes et à les amener avec lui, elle ne vient pas de David. Il était sur le point de se faire lapider. C'est bien que Dieu a rétabli David dans sa position de leader. Et on voit donc que 200 hommes, par contre, vont s'arrêter au torrent de Bessor. Ils étaient trop fatigués. On va y revenir. Une autre situation qui montre que David a retrouvé ses capacités de chef de guerre victorieux, au chapitre 30, versets 16 et 19. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant, dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chemins et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, Il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Donc il a retrouvé ses capacités de chef de guerre qui fait des exploits avec Dieu à ses côtés. Les Amalécites avaient amené toutes les femmes, tous les enfants, beaucoup de biens de David et de ses 600 hommes. Il va tout retrouver. Et puis une dernière étape de réhabilitation, et c'est là qu'on voit que David a été totalement réhabilité par Dieu. Au verset 21 à 24, 1 Samuel 30, 21, 24, une fois qu'ils ont libéré les femmes et les enfants, qu'ils ont vaincu les Amalécites, ils vont revenir en arrière. David arriva près des 200 hommes, donc c'était les 200 hommes qui s'étaient arrêtés au torrent de Bessor. Donc il arrive près des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bessor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les amènent et s'en aillent. » Mais David dit « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés, et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » Voilà pourquoi que je dis que David est complètement réhabilité par la grâce de Dieu. Non seulement il a renoué sa relation avec Dieu, Dieu de nouveau l'a conduit à réaliser des exploits, des victoires. Il l'a rétabli en tant que chef des 600 hommes. Et à présent, David porte du fruit. On voit que David ici, il est très bienveillant. Il va au-devant, il va vers les 200 hommes, il leur demande comment ils se portent. Et ensuite, il les défend face aux 400 autres hommes qui disent qu'ils prennent leurs femmes et leurs enfants, qu'ils s'en aillent, ils n'auront rien du butin. Et David dit, non, ils sont restés près des bagages, ils ont droit, autant que vous, à partager ce que Dieu nous a donné. Voilà, donc on a là un David retrouvé, un David qui est rempli de la présence de Dieu, qui est lucide et qui, de nouveau, prend de bonnes décisions. Il trouve même des excuses pour ceux qui sont restés près des bagages, puisqu'au départ, il est dit qu'ils étaient restés au torrent de Bessor parce qu'ils étaient fatigués. Et maintenant, David dit, non, ils sont restés pour garder les bagages. Très certainement qu'ils avaient les bagages avec eux, mais enfin, David... D'ailleurs, Jésus est comme ça aussi avec nous. Il n'excuse pas tout, parce qu'il faut que nous venions vers lui avec un cœur sincère. Nous devons avoir cette démarche d'avoir une sincérité. Mais Jésus, il est toujours prêt à nous tendre la main, même si nous faisons une bêtise, même si à un moment donné, nous fautons. Mais Jésus est toujours là, toujours prêt à nous tendre la main. Donc David était allé très loin dans son parcours, loin d'Israël. Pays des Philistins, il était allé très loin. Il avait semé la mort autour de lui, il avait trompé les Philistins, il était parti très loin. On aurait pu penser que ce David, qui était à un pas de la mort, finalement, s'il n'avait pas eu ce retour vers Dieu, s'il n'avait pas eu cette prière, s'il n'avait pas eu ce courage qu'il avait de suite remis sur pied, si Dieu ne l'avait pas remis sur pied par sa prière, on peut penser que David serait mort et l'histoire serait terminée. Mais on voit aussi que, parce qu'il a eu le courage et qu'il est revenu vers Dieu, David s'est rétabli dans le plan que Dieu avait pour lui. Le plan de Dieu pour David, c'était que David devienne le roi d'Israël. On aurait pu penser qu'à un moment donné, ce plan-là était compromis, quand David menait ses troupes à massacrer les peuples alentour. Ce n'était pas quelqu'un dont on aurait pu dire « Regardez, c'est le futur roi d'Israël ». Non, on aurait dit, ben regardez, c'est quelqu'un qui bientôt va se retrouver dans une situation qui va le mener à la mort. Ou... Non, mais parce qu'il s'est retourné vers Dieu, parce qu'il a imploré Dieu, parce qu'il a demandé son pardon, sa grâce, et aussi parce que Dieu était toujours là, comme le peuple dans le désert s'était privé de la présence de Dieu, David s'était privé de la présence de Dieu, mais Dieu était toujours présent. Dieu était toujours à ses côtés. Et quand David a repris courage et a invoqué le nom de l'Éternel, Dieu était là pour le rétablir. Amen. Je crois que tout ça, on peut se l'appliquer à nous-mêmes. Certainement, dans nos vies, nous aussi, nous avons des situations qui vont générer de la peur. C'est normal, je disais tout à l'heure, c'est humain. Il y a peut-être des personnes qui entendent ce message, qui, parce qu'elles sont malades, parce qu'elles rencontrent une, une situation compliquée, je parlais tout à l'heure de séparation, de parfois on perd son emploi ou on recherche un emploi, on ne trouve pas, on a un problème de logement. Et c'est humain, qu'est-ce que je vais devenir si j'ai une famille, si je peux m'inquiéter aussi pour eux. Et si je laisse la peur me dominer, et si je prends des décisions uniquement en rapport avec ce que me dicte cette peur, en fait, ça va m'amener toujours plus au-devant de problèmes. La bonne chose à faire, ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que Dieu est à nos côtés. Jésus est à nos côtés. Il n'est pas absent. Même si les choses vont mal, Dieu est là. Même si tu es malade et que les diagnostics sont les pires, peut-être que c'est une réalité et c'est normal que tu aies peur, mais Dieu est à tes côtés. Jésus est à tes côtés. Reprends courage et implore l'Éternel. Rappelons-nous aussi que, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes conduites, c'est une situation difficile et dans laquelle nous avons des reproches à nous faire, parce qu'à un moment donné, nous avons abandonné Dieu, parce qu'à un moment donné, nous avons été moins fidèles dans la prière, dans la lecture, dans la communion. Plutôt que nous en vouloir, plutôt que penser que nous sommes mauvais, et plutôt que nous enfermer là-dedans, parce que ce raisonnement-là, en fait, il nous éloigne encore plus de Dieu. Rappelons-nous ce qui s'est passé pour David. Et rappelons-nous qu'à un moment donné, David, parce qu'il a repris courage, il est de nouveau rentré dans le plan de Dieu pour sa vie. Et Dieu n'est pas un homme pour oublier les promesses qu'il nous fait. Dieu n'est pas un homme pour nous tourner le dos parce que nous l'avons déçu. Dieu n'est pas un homme pour nous montrer du doigt, nous dire, regarde, tu es un vilain petit canard. Tu n'as pas été fidèle. Tu as pris une mauvaise tournure. Et donc, je ne veux plus entendre parler de toi. Non, ça, c'est pas la pensée de Dieu. Si vous avez ces pensées-là, parfois, ou si des personnes autour de vous peuvent avoir ces pensées, dites-leur que ces pensées ne viennent pas de Dieu. Parlez-leur de l'histoire de David. Illustrez avec l'histoire de David. David aurait pu mourir, mais la fin de l'histoire, c'est pas ça. C'est que David a été rétabli dans le plan de Dieu. Non pas parce qu'il a mérité. Il n'a certainement pas mérité. Mais parce que Dieu est amour. Dieu est notre Père. Jésus nous tend la main. Jésus est mort à la croix pour nous. C'est pas pour rien qu'il est mort à la croix. C'est parce qu'il voulait nous sauver. Dans toute situation. Donc faisons confiance à Dieu. Rendons grâce au Seigneur pour son sacrifice à la croix. Il nous a montré le chemin. Restons confiants, même si les épreuves sont là, même si c'est dur. Restons confiants dans le fait que Dieu est à nos côtés et qu'il pourvoira nos besoins. Il va nous rétablir, il va nous réhabiliter, il va nous relever, parce que c'est ce qu'il a prévu pour nous. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, nous voulons rester confiants malgré les soucis, malgré les épreuves, malgré les difficultés. C'est vrai que cette vie sur terre est difficile. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné par les soucis de la vie. Personne n'est épargné par les épreuves. Et l'ennemi est là, il rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer, toujours prêt à utiliser les ruses, les tromperies, pour nous faire croire que tu n'es plus là. Toujours prêt à utiliser la peur, à manipuler la peur pour nous amener loin de toi, pour nous couper de cette relation avec toi. Alors Seigneur, non, nous ne voulons pas être pris dans cet enroulement sinueux qui nous endort. Nous voulons pas que l'aveuglement spirituel l'emporte. Au contraire, Seigneur, nous voulons garder ce discernement qui vient de toi, Seigneur, pour faire les bons choix. Nous ne voulons pas que la peur gouverne, mais nous voulons que ce soit toi qui gouverne dans nos vies, Seigneur. Nous voulons nous en remettre à toi, Seigneur. Donne-nous ce courage tel que l'a eu David, qui a repris courage, Seigneur, place ce courage en nous, ce courage qui vient de toi, parce que non, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais tu nous as donné un esprit de force. Remplis-nous, Seigneur, de cet esprit de force, que nous puissions agir positivement dans nos vies, Seigneur, mais que comme David qui a été réhabilité, Seigneur, eh bien, nous puissions bénir autour de nous, parce que c'est ton plan, Seigneur. Tu veux nous sauver, oui, mais tu veux qu'aussi, par ton action, ben, tu nous guides vers les autres, Seigneur, et que nous soyons des instruments entre tes mains pour, à notre tour, encourager, bénir, porter du fruit et amener d'autres personnes à venir vers toi. Que ces personnes-là te reconnaissent comme leur sauveur, leur Seigneur personnel. Seigneur, encourage-nous, place ce courage en nous, Seigneur. Ne permets pas que la peur l'emporte. Nous rendons grâce, Seigneur, pour ta parole qui est puissante, qui est agissante. Aujourd'hui encore, merci, Seigneur, pour cet exemple de David. Seigneur, nous te remettons sur encore beaucoup de situations, de personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Et nous le faisons parce que nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous savons que tu es vivant. Seigneur Jésus, tu es assis à la droite du Père. Tu intercèdes pour nous auprès du Père. Nous savons que tu agis, Seigneur. Tu agis dans les vies. Seigneur, sois encore, nous t'attendons, Seigneur. Sois encore, nous voulons voir ta main étendue sur les situations que nous allons te présenter. Merci, Seigneur, pour ton amour.